Moi, c'est André de Moussmaï au Kassai oriental. J'ai repris totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Thierry de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Capi qui vous propose ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Près de 50 personnes sont mortes et des milliers d'autres sont sans abri après des inondations provoquées par des pluies diluviennes qui se sont abattues fin décembre dernier dans la ville de Boma, dans la province du Congo central. La même situation s'est produite à Kinshasa et Bukavu où une avocate a été emportée par les eaux des pluies jusqu'au lac Kivu. Pour faire face à ce genre de situation, certains observateurs estiment qu'il serait mieux pour l'État congolais de mettre en place un service efficace de prévention des catastrophes naturelles. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, vous pouvez nous rejoindre et nous appeler directement au 081-890-7315. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à ceux qui, en fait, participent déjà au débat sur notre page Facebook en ce moment où nous démarrons cette émission. Julie Pézabongonda est au standard, Thierry Lamegi à la réalisation, Sylvain Matundou à la mise en œuvre de cette émission supervisée par Martin Sebouzaloué et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo-Luabou-Angi. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Le CNUD accompagne les acteurs locaux de manière globale et stratégique sur la prévention des risques liés aux catastrophes en RDC. Depuis mars 2015, le CNUD soutient le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur et Sécurité dans le renforcement des capacités pour la réduction des risques de catastrophes. Ce projet qui devrait prendre fin en décembre 2016 se poursuit avec comme objectif le renforcement du cadre et des capacités institutionnelles pour la réduction des risques en République démocratique du Congo. Alors pour répondre à l'objectif 5 du cadre de Sénégal 2015-2030, le pays se doit de doter d'une stratégie pour la réduction des risques des catastrophes. Qu'en est-il? C'est la question qu'on se pose. Maître Bibiche, vous êtes à Boma. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes habitante de la ville de Boma, là où s'est produite cette situation d'inondation et qui a fait des victimes. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu cet événement? Comment cela s'est-il passé concrètement?
Oui, bonjour, monsieur. Merci pour la parole accordée. Et ce que nous avons pu remarquer, parce que je suis coordonnatrice du ONG de Rejupa, qui s'occupe aussi de l'environnement, parce que nous sommes entrés occuper 40 hectares avec le projet PUNFEM pour le secteur de Materne, à Kolonoki. Alors, c'est pendant la nuit du 25 au 26 que nous avons pu remarquer cette nuit-là, cette nuit qui ont commencé en fait la journée le matin à Kinshasa, et ces débordements vers les Mayombe et à Boma, toute la nuit de Boma, et qui a pu faire des débordements impossibles, incroyables, qui n'ont jamais eu lieu à Boma, ça fait une cinquantaine d'années. Moi, ça fait 13 ans que je suis à Boma, j'ai vu à Boma, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Il y a eu des morts, il y a eu des familles qui ont été sinistrées, des entreprises publiques. Franchement, je vous assure qu'il y a lieu de trouver de mesures de prévention telles que vous le dites tout à l'heure. Là.
Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité de la population aussi, la responsabilité citoyenne? Parce qu'aujourd'hui, le fait que la rivière vient de déborder de son lit, cela ne se justifie-t-il pas par rapport à la population qui arrive à amonceler, par exemple, la rivière avec des déchets?
Bon, les responsabilités sont partagées, mais moi je pense que la population n'a rien à voir dessus. Parce que, de un, c'est lui-là, il est tellement n'est pas puré, il est très débordé, juste débordant, et qu'il faut des activités, des experts qui doivent descendre sur le lieu pour purer la rivière Kalamu, parce que les débordements, c'est juste tout au long de cette rivière-là. Et de deux, par rapport à la population, Bon, il y a les effets de changement climatique. La population ne vit que du bois, il y a la déforestation, bien sûr, mais il y a la société civile, les ONG internationales qui essaient un peu d'agir. Nous, personnellement, en Asie, on a sur les 40 hectares déjà. On a déjà planté 20 000 plantes. Donc, la population, c'est quelque chose qui est naturel, qui est arrivé, mais il y a lieu que le gouvernement local et provincial, en fait, et central, essaie de voir dans quelle mesure prendre d'abord des mesures d'urgence par rapport aux familles sinistrées.
Alors, parce que nous parlons également de prévention, est-ce que au niveau de la population riveraine, la population qui a construit des maisons autour de cette rivière, est-ce qu'on a des constructions autorisées par l'État ou c'est pratiquement des constructions anarchiques?
Non, ce sont des constructions autorisées. Ce sont des constructions autorisées. Moi-même, là, il y a un centre d'alphabétisation conscientisante avec presque 100 membres, 100 filles mères qui suivent dans le secteur de Mbango. Dans mon église, là, puisque mon mari est pasteur, à l'église La Louange, qui est sinistrée avec presque 200 membres qui ont de 80% qui sont sinistrés. Donc, toutes ces populations-là, pas dans l'anarchie, ils ont des documents qui sont fiables, qu'on peut même vérifier.
Alors, si je comprends bien, l'aspect prévention souffre, d'exécution au niveau de la ville de Boma, mais voyons un peu le volet gestion maintenant de ce qui est arrivé. Est-ce qu'il y a eu une intervention d'urgence qui consiste réellement en quoi?
Bon, moi personnellement, dans le cadre de la société civile, dans notre ONG, moi je le dis, c'est bien, il y a le gouvernement local, le provincial, qui a fait une descente juste le lendemain des événements. Il y a le local ici, Madame le maire, qui a intervenu, qui est vraiment dans qui met la main dans la pâte. Mais concrètement, l'identification, c'est bien, mais concrètement, ces familles-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on leur réserve? Qu'est-ce qu'on leur apporte comme appui, comme consolation? Il n'y a rien de concret. Moi, je pense qu'il n'y a rien de concret. Il y a les familles qui passent la nuit à la belle île. On a entendu parler, il y a des terrains peut-être qu'ils peuvent octroyer aux sinistrés, mais pour qu'ils habitent tout sous le temps, comment ça se passera? Sous le financement de quelle institution? Est-ce que le gouvernement local provincial a le moyen pour ça?
Est-ce que la Croix-Rouge RDC, qui a la charge de la gestion des catastrophes dans ce volet même de la prévention et l'intervention en cas d'urgence, a-t-elle été présente à ce jour pour gérer cette situation, cette crise?
En tout cas, à mon avis, jusque-là, je n'ai pas la bonne information. Je dois peut-être me renseigner, mais moi, nous sommes en train d'identifier les cas, puisque nous sommes le long de Sinaï, donc le pont 4, jusqu'au vers kilomètre 8. Nous sommes en train de nous atteler par rapport à cette superficie-là, cette distance-là. Donc, nous ne voyons aucune aide par rapport aux gens identifiés.
Merci beaucoup, Maître Bibiche, d'avoir appelé des Boma à ce niveau pour la gestion de la situation de cette crise qui, en fait, a fait beaucoup de victimes par rapport à l'inondation à Boma. On est jusque-là, comme vous l'avez dit, au niveau de l'identification. Vous ne sentez pas une aide ou une intervention d'urgence pour aider
non, c'est pas concret. Hein.
Voilà, donc pour vous, c'est pas concret.
Voilà,
merci beaucoup, Madame Bibiche. Mais de l'autre côté, parce que la même situation s'est produite à Bukavu, où on nous signale d'ailleurs qu'il y a une avocate qui a été emportée par les eaux de pluie jusqu'au lac Kivu après la pluie. Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour, Amos.
Bonjour, Julien. Bonjour au peuple congolais qui nous suit. Au fait, comme vous le dites, c'est une situation qui continue à déranger la population du Sud Kivu par rapport à ce que nous venons encore de connaître en perdant, comme venait de le dire, Maître Cyprien Foura Barungwe, une avocate au barreau de Bukavu. C'est juste avant-hier, quand il a plu, sur toute l'étendue de la province, c'est ainsi que la dame qui était au volant dans sa jeep, qu'elle a été emportée par la rivière Kaoua jusqu'au lac Kivu. Et à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore trouvé le véhicule et la dépouille mortelle. Et la population continue à se demander finalement ce qu'il faut. Mais par rapport à ce que vous dites,
oui,
il y a un problème sérieux.
Oui, Amos, qu'est-ce qui serait à la base, qu'est-ce qui serait à la base de ce débordement de la rivière, pardon, de la Kivu, jusqu'à à inonder quand même les quartiers, disons, à quelques mètres ou à quelques kilomètres, jusqu'à emporter l'avocate que vous venez de citer tout à l'heure. Qu'est-ce qui serait réellement à la base?
Là-bas, ce qui sera la base de tout ça, c'est connu. Il y a d'abord la mauvaise gestion de l'environnement par nos autorités. Et là, il y a deux points que nous pouvons citer. Il y a d'abord la construction anarchique. C'est-à-dire, vous allez voir que les gens ont construit partout, et jusqu'à empêcher les eaux, là où les eaux peuvent passer. Et cela aussi est aussi des services de l'État qui vendent des parcelles aux gens qui construisent n'importe où. Il y a des deuxièmes problèmes, c'est la mauvaise gestion des inondations. Vous allez comprendre que les gens jettent des déchets partout, même quand il pleut, c'est là que les gens profitent comme ils n'ont pas où jeter les immondices. Il n'y a pas de poubelles publiques au niveau de la ville. Les gens profitent de l'occasion pour jeter des immondices dans les eaux quand il pleut. Et c'est ce qui permet que ces immondices bouchent les caniveaux et jusqu'à ce qu'il y a débordement. Et quand il y a débordement, voilà les constatations que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Alors, pensons que comme on a toujours dit, les catastrophes naturelles existent toujours. Mais il faut qu'il y ait des mesures préventives pour qu'il n'y ait pas de morts. Parce que nous sommes en train de nous dire qu'un mort de plus, c'est déjà trop pour la République démocratique du Congo, au vu des morts que nous avons déjà connues à la République démocratique du Congo. Mais si nous parvenons encore à connaître des morts par les mesures d'imprudence de ceux qui gouvernent, et qui laisse la situation pourrie, et demain, on va continuer à compter des morts. Vraiment, nous constatons que nous avons des dirigeants qui ne prennent pas réellement au sérieux ce qu'ils doivent faire et parvenir à sauvegarder ou à empêcher qu'il y ait des conséquences comme nous les déplorons
aujourd'hui. Oui, oui, Amos.
C'est le terme qui venait de nous couiller.
Oui, Amos, là, en vous entendant parler, c'est comme si vous insistez pour dire qu'effectivement, il s'agit là de cas d'une sécurité civile, mais au-delà de cela, est-ce qu'on peut également évoquer, disons, en grande partie, la responsabilité citoyenne, la population qui devait ne plus que accompagner aussi cet aspect prévention.
Justement, au contraire, on tire aussi la responsabilité citoyenne parce que même si la population devait comprendre, comme vous le dites, que nos autorités ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Et c'est là que la population aussi elle-même devait prendre des mesures conséquentes pour ce qui est de sa sécurité et parvenir à éviter de telles conséquences. Malheureusement, la population se rend compte que nous vivons la jungle. Et comme je l'ai toujours dit, on ne vient jamais une institution ou un État par confiance. Tout le monde n'a pas de confiance, c'est pourquoi l'État est là. C'est pourquoi il y a des autorités qui doivent parvenir à orienter la population, à se comporter dignement. Malheureusement, le problème est que quand la population constate que l'autorité ne fait pas mieux son travail, voilà que la population aussi se comporte n'importe comment. Et aujourd'hui, nous avons des conséquences néfastes que tout le monde déplore. Et je me dis, on a déploré aussi un autre cas du fait qu'apparemment, il n'y a pas aussi le service de sécurité sociale. Parce que les gens qui étaient à la place du 24 ont dit que si du moins, il y avait des gens qui devaient juste secourir la dame là, elle ne devait pas mourir, mais on a remarqué que depuis qu'elle a connu ce problème, il n'y a pas eu d'intervention jusqu'à ce que ce qui nous est arrivé. Mais je me dis sincèrement, il est grand temps que nos autorités comprennent qu'ils ne sont pas là seulement pour exiger à la population de payer des taxes, pour dire qu'elles gèrent au moment où nos autorités laissent des questions pendantes et qui continuent à fâcher la population jusqu'à ce que nous déplorons les morts, comme nous venons de les déplorer.
Merci.
Et nous ne sommes pas à notre première étape de connaître une telle situation avec la rivière Kaoua, et les autorités n'ont jamais pris une mesure pour empêcher de telles situations dans la ville de Bukavu.
Merci beaucoup, Amos. Je retiens trois choses. Vous avez parlé de la mauvaise gestion de l'environnement, les gens qui construisent partout, tout autour de la Kivu, et voilà les résultats. La mauvaise gestion également des immondices, c'est ce qui appelle la responsabilité citoyenne. Merci beaucoup. Maître Omar, vous êtes à Kinshasa, et Kinshasa a connu la même situation. On nous a signalé qu'avant-hier, lorsqu'il y a eu des pluies diluviennes, une bonne partie de la population a été bloqué au niveau du triangle entre Mongafula et Cité Verte. Les gens ont passé même la nuit à la Belle Étoile. Omar, est-ce que vous partagez l'avis et selon lequel il y a de responsabilités partagées?
Merci beaucoup, J.R. Merci du verbe que vous m'accordez. Je suis d'accord avec l'intervention pertinente de Amos. Et ça fait très mal alors qu'on a toujours évoqué l'intérêt général. On pense que l'intérêt général, c'est le partage de postes, alors que l'intérêt général, c'est aussi la sécurité, la santé publique. Hier, je suis à Kinshasa, c'est vrai que l'événement s'est passé à Bukavu, mais il n'y a pas que là où vous avez cité. Il y a aussi vers Bongolo, entre l'Université Kimbangé et Yolo Médical, il y a eu des morts, des maisons incendiées. Il y a aussi vers la rivière Monsoso, à Limété, avant d'arriver à la 7ème rue. Il y a des morts, on n'en a pas parlé. Ça fait très mal dire que la vie humaine soit perdurée comme ça, et les gens s'évertuent à parler des élections, à parler des politiques, alors que ce qui est prioritaire, c'est la vie humaine qui est sacrée. Moi, je pense, comme l'a dit mon ami Amos, la première cause qui fait qu'on ait des inondations, parce que hier, il y a aussi un problème d'expertise qu'il faut spécifier. En matière d'inondation, il faut spécifier des catégories. Il y a des inondations dues à la négligence de celui qui doit gérer l'environnement. Il y a aussi des inondations dues aux catastrophes naturelles, même si on avait pris des préventions, on ne peut pas faire. Aujourd'hui, au Japon et ailleurs, en Haïti, il y a des inondations qui sont dues à des graves situations humanitaires. Par rapport à la négligence, il faut d'abord rappeler que nous sommes en RDC qui est un état de droit. La protection de l'environnement est l'apanage exclusif du gouvernement qui les fait en concurrence avec les gouvernements provinciaux. Donc, dans le premier défi, il faut d'abord responsabiliser l'État congolais qui n'arrive pas à jouer son rôle. Deuxième chose, à Kin, par exemple, les causes ont été bien spécifiées de façon systématique. Il y a un problème de manque de caniveaux. On ne peut pas comprendre dans une grande ville comme Kinshasa qu'il y ait un manque de caniveaux. Autre chose, hier, il y a un problème d'assainissement. Nous l'avons toujours décrié. À la Deuxième République, il y avait un contrôle sanitaire. Les responsabilités ne se limitent pas au niveau du gouvernement central et du gouvernement provincial. Il y a aussi un problème de la police de l'environnement. Est-ce que cette police travaille pour voir si les gens sont respectés? Nous l'avons toujours dit hier. Lorsque l'environnement n'est pas respecté, la vie humaine n'est pas possible. Et c'est une des causes des inondations qu'on vit aujourd'hui. Il y a aussi un problème, vous l'avez évoqué, d'un civisme citoyen. Il n'y a pas que le gouvernement qui doit créer des caniveaux, qui doit prévenir les dégâts environnementaux. Il y a aussi la population qui est incivique. Il y a des gens qui mangent des bananes qui jettent en cours de route. Il y a des gens qui jettent des bouteilles d'eau dans des caniveaux. Et lorsque les caniveaux sont bouchés, il y a un débordement. Il y a des gens qui achètent des terrains dans des terrains marécageux, sous l'œil vigilant des conservateurs et des titres immobiliers. Donc, j'ai les responsabilités sont partagées. Il faut qu'il y ait une étude sérieuse qui doit être faite. Mais il y a aussi un problème, j'ai de l'ignorance. Combien de Congolais savent que lorsqu'on jette des déchets sur l'eau ou encore sur un caniveau, ça peut créer un jour des inondations? On ne sensibilise pas, on n'éduque pas. Mais par rapport aux préventions, par rapport aux inondations qui sont inattendues, je l'ai dit ici, les inondations ne sont pas seulement à Kinshasa ou au Congo, c'est partout au monde. Nous avons un manque de politique environnementale. Voilà pourquoi, pour chuter avec des solutions, je soutiens ce que vous avez dit, il faut qu'il y ait un service qui soit créé pour lutter contre les incendies. On a comme l'impression hier que les effets humanitaires, les dégâts humanitaires ne sont pas l'amour des Congolais. Lorsque Charlie est deux morts, le monde entier s'est levé pour dire je suis Charlie. Mais lorsque les gens sont morts à Béni, on n'a vu aucun membre du gouvernement dire je suis Béni. Nous-mêmes, Congolais, autorités, gouverneurs, on n'a pas la culture humanitaire. On doit commencer par là. C'est un problème d'abord de volonté, créer un service de défendu. Voilà pourquoi on dit niveau prévenir et guérir. Ces services doivent. On a un ministère des Affaires sociales et humanitaires. Qu'est-ce que c'est le ministère hier?
Il y a un message, il y a un auditeur qui nous a déposé un message avec une petite réflexion. En disant que c'est vrai, en amont, il y a également des inondations qui rentrent, comme vous l'avez dit, dans les cas de catastrophes naturelles qu'on peut peut-être prévenir de manière un peu à renforcer la politique de l'urbanisation de la ville. Et là, ça pourrait quand même réduire les risques de dangers. Et d'autres qui vont plus loin pour demander à ce que, afin d'éviter quand même de multiplier des fonds, mais pourquoi ne pas insérer, au lieu de laisser la charge à la Croix-Rouge simplement, mais de proposer peut-être une petite section ou encore un petit fonds au niveau du compte social de la République qui pourrait travailler dans ce sens-là, comme on a semblé résoudre tant soit peu les problèmes au niveau des routes avec les poneys. Pourquoi ne pas créer un petit fonds au sein du compte social de la République?
Merci J.I.R., vous avez raison. J.I. à suivre grâce à une ONG à laquelle je suis conseiller juridique et médiumas, qui font sur la santé publique. Il y a deux catégories d'inondations. Il y a des inondations liées aux catastrophes naturelles devant lesquelles personne ne peut tenir. Qu'est-ce qu'on fait en matière de santé publique? Il faudrait qu'au niveau du gouvernement qu'il y ait des mesures préventives pour dire que on doit d'abord sensibiliser la population pour dire que par rapport à tel terrain, par rapport à tel chose, voilà ce qui peut arriver. Deuxième chose, on doit prévoir un fonds déjà à l'avance pour dire que s'il y a des catastrophes qui arriveraient, indépendamment de la bonne volonté du gouvernement, voilà comment on agirait. Il y a deuxième catégorie des inondations dites à la négligence et de la population et des gouvernements. Là, il faut la responsabilisation de tout le monde. Vous avez vu comment ici, il fallait que l'Union européenne vienne pour dégager les poubelles. Le tout se résume en deux choses hier. Il faut qu'on crée cette service d'incendie pour prévenir les dangers, surtout en matière de catastrophes naturelles. Créer un budget avec des gens compétents. Deuxième chose, il faut qu'on pas ce qu'on appelle l'éducation environnementale. L'environnement est une éducation, c'est toute une science. Il faut qu'on apprenne à la population que la conservation et la protection de l'environnement est un préalable vital pour la vie. On ne se limite pas à la GIA, il faut qu'il y ait un service de suivi. On l'a fait à la Deuxième République, on passe dans chaque parcelle, dans chaque avenue pour voir si les gens respectent. Il y a beaucoup. La protection de l'environnement est une norme qu'on doit respecter, ce n'est pas un vœu. Et protéger les gens par rapport à l'environnement, c'est une norme. Moi, je vis à Kinshasa aujourd'hui plus de 25 ans. J'ai été à Lingwala, vous savez, devant la rivière Ngwele quand il pleut. Moi, j'ai assisté à ces scènes où des gens, lorsqu'il pleut, ils sont devant leur maison. C'est un problème sérieux. Voilà les problèmes qui doivent faire l'objet des débats dans les débats entre Congolais. Ce n'est pas un problème de président, de gouverneur. Voilà les vrais problèmes. Hier, j'en appelle à la volonté politique de ceux qui gèrent l'environnement. J'en appelle aussi à la citoyenneté des gouvernés. On n'est pas seulement là pour critiquer ceux qui gouvernent, mais bon, aussi avoir le sens des citoyens. Merci. Moi, j'étais à Somalie, j'ai fini par là. Je vis un chauffeur en train de conduire, il avait pris en train de conduire. Il y avait un compatriote congolais qui a mangé et qui avait des sachets de lait, il voulait jeter. Le chauffeur lui a dit, donne-moi cela. Il a gardé, il est arrivé quelque part, il a garé la voiture, il est allé jeter cela dans une poubelle. Aujourd'hui, si on parle de poubelle, c'est le nom d'une personne infoncée, M. René Poubelle. Donc, à part le gouvernement qui doit protéger avec des mesures préventives et un fonds alloué quant à ceux, il y a aussi la population qui doit être consciente, car si on n'améliore pas, on n'assainit pas notre milieu, on aura toujours des inondations. Voilà ma petite préoccupation. Hier, j'ai fini en transmettant mes condoléances aux barreaux frères de Bukavu.
Merci beaucoup, Maître Omar. Merci également à vous tous ceux qui nous avez rejoints pour participer à ce débat. 081 890 63 15 pour votre intervention en direct. Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguema.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Joséphine, vous êtes à Boston, gardez la ligne. Il est temps pour nous de recevoir notre invité qui est également en ligne, Monsieur Moïse Kabongo Ngalula, qui est directeur des gestions des catastrophes de la Croix-Rouge de la RDC. Monsieur Moïse, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez suivi les uns les autres, c'est vrai, pour cette question relative à la gestion des catastrophes, y à boire et à manger. Et certains, évoquent clairement la responsabilisation des uns et des autres. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à ces interventions?
Oui, par rapport à ces interventions, j'ai retenu que les autres sont en train de discriminer la population, les autres sont en train de discriminer les gouvernements. Mais je pense que les responsabilités sont partagées. Si je dis les responsabilités sont partagées parce que les gens, je prends l'exemple de Boma, les gens sont partis et les longs, érigés des maisons le long de la rivière Kalamu,
Et je pense que ces gens aussi, ils ont des maisons là-bas et ces rivières ne sont pas tirées comme on vient de dire. Donc les responsabilités sont partagées.
Voilà. Alors, mais on sait tout de même qu'il y a, il y a eu des efforts des partenaires pour accompagner aujourd'hui les acteurs locaux qui sont impliqués dans la gestion des catastrophes, notamment à la Croix-Rouge et tant d'autres. À ces jours, il était question d'avoir un plan national, des stratégies, des préventions des risques hein, ou des catastrophes. Qu'en est-il?
Oui, avec l'accompagnement du PNUD et le ministère des Affaires sociales, nous avons mis en place le plan pour tenter de travailler pour la réduction des risques des catastrophes. Les gens ont été informés, on a rédigé le plan, mais vous comprendrez que le pays est grand. Il faut commencer avec des zones pilotes. Et les zones pilotes, ici, nous avons commencé avec le PNUD, c'était la province de Bukavu et la ville de Kinshasa. Les activités sont menées, mais les activités sont menées, l'exemple de la ville de Kinshasa, si vous allez au niveau des Kingaboa, on a mené des activités là-bas pour réduire, soit tenter le catastrophe dès qu'il y a des inondations. Mais le pays est grand, nous avons commencé seulement l'année passée avec cet accompagnement. C'est difficile, nous sommes en train de travailler pour arriver à couvrir un jour l'étendue du pays qui est si grand.
Alors malheureusement, les zones pilotes dont vous avez évoqué, les Bukavu et Kinshasa, viennent de connaître quand même aussi les cas des inondations lors des dernières pluies. Vous avez évoqué pour le cas des Boma, qu'est-ce qui serait à la base de cela. Vous avez cité notamment les constructions anarchiques, disons raison qui a été balayée des revers de la main par notre auditrice qui était intervenue tout à l'heure, le maître Bibiche, qui a dit que ces maisons sont construites en bonne et due forme. Et là, nous avons évoqué également la responsabilité citoyenne par rapport à la gestion de cette rivière. Il y a Omar qui est revenu sur ça. Amos a évoqué également la même question. Mais concrètement, quelles sont les activités que vous menez dans ces zones pilotes, Bukavu, Kinshasa notamment?
Oui, dans ces zones pilotes, la première activité, c'est la sensibilisation. Nous allons vers la communauté pour leur sensibiliser de la présence des catastrophes qui se trouvent avec lesquelles ils vivent. La population vit avec des catastrophes sans savoir qu'ils vivent avec la catastrophe. Les gens qui ont construit le long des rivières, est-ce qu'ils savent que ces endroits-là ne peuvent pas être construits et un jour il y aura des inondations? D'abord, la première chose, c'est la conscientisation. Après la conscientisation, nous développons les activités avec eux. Comment construire, même s'ils ont construit, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Mettre en place le système d'alerte avec la communauté pour savoir que s'il y a des pluies, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons former les gens de la communauté pour savoir pas qu'on ne peut pas empêcher les catastrophes. Si les catastrophes arrivent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ce sont là les éléments principaux du plan qui permet de mettre en place des activités pour la réduction des risques des catastrophes. Mais pour revenir à ce qui s'est passé à Boma, c'est pour la première partie. Les choses se passent comme ça parce que je viens moi-même de Boma, là où l'auteur de l'eau, c'est 5 mètres, à des endroits là où on ne pensait pas que l'eau pouvait atteindre 5 mètres. Donc il y a aussi le problème du changement climatique qui intervient. Mais la population aussi a une grande partie dans cette intervention.
Voilà, donc la responsabilité citoyenne, comme l'ont dit certains des auditeurs qui intervenaient avant vous. Mais la grande question aujourd'hui, c'est vrai, est-ce que par rapport à notre stratégie, par rapport à l'accompagnement avec les partenaires, par rapport aux activités que vous menez au niveau de la Croix-Rouge, il y a Omar qui a beaucoup plus insisté que les résultats, c'est la fin qui justifie les moyens. Et s'il n'y a pas de moyens, je crois que vous n'allez pas atteindre les résultats. Il va falloir, selon cet auditeur, proposer un fonds pour gérer pour la gestion des catastrophes au niveau de la prévention et au niveau de l'intervention urgente.
Oui, là je suis tout à fait d'accord avec lui parce que c'est le moyen qui justifie
ce
qu'on fait. Mmh. Oui, je pense qu'il est nécessaire qu'on mette un fonds d'urgence, que ces fonds soient utilisés pour la prévention. On ne doit pas donner seulement la réponse. Souvent les partenaires ne veulent pas donner l'argent pour la préparation, ils donnent l'argent quand il y a la réponse. Nous devons mener plus d'activités pour préparer la population, pour que la population sache que les endroits que nous avons construits, ce ne sont pas des bons endroits. Je donne un autre exemple ici, ma campagne. Moi, j'ai vécu à Kinshasa. Ma campagne, c'est une zone qui ne devait pas être habitée. Mais les gens qui ont construit à ma campagne ont mis les moyens. Quelles sont les populations qui habitent les zones inondables? C'est les gagnes de qui?
c'est qu'un site là ne construit pas correctement avec les matériaux durables. Je viens de Boma, il y a beaucoup de maisons qui se sont écoulées. C'est des maisons construites à terre battue. Et c'est des maisons construites le long de rivières. Or, ces gens qui ont construit le long de rivières, s'ils construisaient comme on a construit ma campagne, on ne devait pas avoir de problème. C'est ça de temps
pour mais monsieur Moïse, mais votre constat relance le débat sur la politique d'urbanisation. Je crois qu'il y a un architecte qui va nous rejoindre d'ailleurs d'un moment à l'autre au cours de ce débat pour aussi évoquer cet aspect des choses. Il y a cet aspect à ne pas négliger non plus.
Oui, il y a cet aspect à ne pas négliger et parce que la population construit à la recherche des maisons, la population construit à n'importe quel endroit.
C'est la politique d'urbanisation qui devait être suivie pour aider la population.
Oui, il faut aider la population à savoir là où construire, là où ils peuvent construire. Les gens qui, moi je suis dans les gestion de catastrophe, ça fait longtemps, les gens qui ont été déversés à Makelele, aujourd'hui ils ont vendu Passa. Si vous connaissez l'histoire de Passa, Passa a été créé pour remplacer les gens qui ont été inondés à Makelele. Mais ces gens ont vendu là-bas, ils sont encore retournés là-bas. Il faut aussi conscientiser la population. On peut avoir des bons plans, mais quand les populations ont leur don de terrain, ils vendent ces terrains, ils reviennent toujours à des endroits comme ça, là, ça devient un problème.
Merci beaucoup, M. Moïse. Nous vous gardons encore en ligne, le temps d'écouter quelques auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Joséphine, vous êtes à Boston, professeur Ignace Akolesi. Joséphine, bonjour.
Ah, bonjour, J.R. Hein? Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je vais dire ceci. Vous savez, avec la technologie, l'homme, l'intelligence de l'homme, on peut construire même dans l'eau. On voit ici aux États-Unis, on voit des villes qu'on a construites dans l'eau. À Dubaï, Dubaï est construit dans l'eau. On dit qu'on a fait rap. Donc on a pris le sable pour faire la terre et construire. Donc ce qu'il y a au Congo, il y a une contradiction entre dire on a un grand pays et puis il y a des pluies diluviennes qui tuent les gens. Il y a une contradiction. Je veux te dire ceci. Ce qu'il y a au Congo, la dame a dit on autorise de construire dans l'anarchie. Il faut faire les routes. Il faut créer de nouvelles villes ou bien de nouveaux villages. Tout le monde ne peut pas aller à Lubumbashi, au centre de Lubumbashi, au centre de Kinshasa. Non! Nous avons un très grand pays, on ne pouvait même pas parler de ces histoires. Le gouvernement doit créer, faire la route, le courant, l'électricité, c'est ce que les gens suivent dans des villes. Il y a le phénomène là de découpage, de morcelage. Mais c'est un phénomène qui ne peut pas exister au Congo parce qu'on a beaucoup de terres. Si vous allez à côté de Maluku, là, vous rentrez à l'intérieur, il n'y a personne. Tout comme à Lubumbashi, la ville, si vous tentez vers aller à Likasi, il n'y a personne. Tout le monde veut être en ville. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a des routes, c'est là qu'il y a des écoles, c'est là qu'il y a de l'électricité. Le problème, c'est le ministère de l'Intérieur, l'environnement, le service des cadastres. Mmh. J'étais au service des cadastres hier, c'est catastrophique.
Mmh.
Donc, on a créé à Lubumbashi, on a créé des quartiers, là où il n'y a pas de route, là où on n'a pas prévu une église, on n'a pas prévu des écoles, l'endroit où faire les écoles. Donc, c'est seulement des maisons.
Voilà.
Alors, les gens vont vivre comme ça.
Merci beaucoup.
C'est vrai que les gens vont, ils ont tendance à construire là où il y a la route,
c'est pas autorisé.
Il y a l'électricité.
Merci. Merci beaucoup, Madame Joséphine, par vos propos. La sécurité civile, aujourd'hui, selon vous, passe aussi par une bonne politique d'urbanisation. Professeur Ilias, vous êtes à Colégie, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation. Je fais mienne les préoccupations de Madame Joséphine de Boston. Je dois simplement dire que ici nous avons un problème structurel. En parlant du problème structurel, j'aurais aimé dire que nous devons avoir des structures permanentes, c'est-à-dire la politique générale du pays devait prévoir des structures permanentes à tous les niveaux. Nous parlons de la décentralisation. C'est que dans chaque entité, on devait avoir des structures permanentes d'intervention en cas de catastrophe. On ne sait pas prévoir les catastrophes naturelles. Et quand je parle des structures permanentes, j'envisage, je vois les structures permanentes d'évacuation, parce que quand il y a déjà une catastrophe qui se manifeste, il faut avoir des gens, des véhicules, tous les éléments nécessaires pour intervenir, pour évacuer les gens. Mais je dis aussi qu'il faut avoir des structures d'accueil. On va évacuer les gens pour les amener où ? Il faut prévoir tout cela. Donc le grand problème se pose, c'est que nous avons un service de météo. Du moins, tant qu'il y a déjà des signes qui montrent que l'atmosphère est en train de se gâter, on doit être en alerte. Ces structures-là doivent être en alerte pour toute éventualité. Alors ce sont des problèmes qui se posent, c'est qu'il faudrait une politique générale. En parlant de problèmes de cadastre et d'urbanisation, qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? C'est-à-dire que les gens occupent d'abord les espaces et le cadastre vient après. Ça pose déjà un problème. C'est comme tu dirais, les techniciens viennent s'adapter, se conformer à ce que les gens ont déjà fait déjà sur terrain. Quand on parle de l'urbanisation, les villes ont de problèmes, entre autres le problème d'évacuation des eaux. Vous allez voir les caniveaux qui sont bouchés, il y a des à travers nos nouvelles cités, il y a des rivières, il y a des ruisseaux, des cours d'eau, des marécages. Mais l'État n'y prend pas pratiquement garde. Et il y a aussi aujourd'hui des problèmes d'érosion, par exemple. C'est autant de problèmes qui devraient avoir des structures en permanence pour les combattre. Donc, voilà pourquoi je disais que c'est un problème structurel. Donc, il faut une politique générale d'intervention, d'évacuation et d'accueil des personnes dans ces situations. Je termine par présenter mes condoléances aux familles qui ont été victimes de cette catastrophe.
Merci beaucoup, professeur Elias, d'avoir appelé depuis Colenzi. Merci à vous tous ceux qui participent également à ces débats en direct sur notre page Facebook. Rudy Caballo, vous êtes à Lubumbashi, vous avez dit dans votre message, avant tout, je présente mes sentiments de tristesse aux différentes familles qui ont perdu les leurs au moment de ces inondations survenues dans la ville des Boma. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Le premier responsable, selon moi, c'est le gouvernement provincial qui connaissait bien que ce phénomène était cyclique dans la ville de Boma et qu'un service de prévention devait être mis en place bien avant pour prévenir ces genres de situations. Je demanderai au ministère en charge de l'habitat d'être à la hauteur de leur tâche pour également prévenir et gérer cette situation. Merci beaucoup. Maspili Matojoka, c'est très regrettable de constater que le Congo central, depuis la Deuxième République, a toujours été marginalisé, abandonné et n'a jamais figuré dans aucun projet de développement du pays. Il est temps, par rapport à cette situation, qu'on puisse y penser. Eli Moneli Temu de Mbandaka, je partage d'abord un sentiment de regret aux familles congolaises habitant Boma qui ont été atteintes à ces tristes événements naturels non prévus. On ne peut pas diriger un pays ou une province de cette façon-là. Le problème, c'est que tout le monde doit, en tout cas en ce qui concerne les responsables de cette situation, assumer la responsabilité et penser à y remédier. Voilà, on va retrouver un ingénieur qui nous a rejoint à ce niveau du débat, Apollinaire Salomon. Vous êtes architecte, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Tout à l'heure, Madame Joséphine évoquait la question de la sécurité civile qui passe aussi par une bonne politique d'urbanisation. Elle a été soutenue par le professeur Ignace de Colosi qui venait de parler tantôt. Que répondez-vous à Madame Joséphine? Est-ce que vous partagez cet avis?
Ah, bien sûr, je peux partager le point de vue de Madame Joséphine. Mais dans tout ça aussi, il faudra avoir, là, quand il y a un tel problème, c'est un problème qui devient des catastrophes civiles, comme on le dit, bien sûr, qui nécessite qu'il y ait des services ou des équipements qui prennent en charge en cas de catastrophes naturelles. Bien sûr, dans les temps, dans notre pays, il y avait, on appelait les, souvent les têtes sur les travaux publics ou travaux. On les trouvait ici à Kinshasa au niveau de la prémérie, au niveau du haut commandement. Vous trouvez des brigades qui peuvent facilement intervenir en cas de catastrophe naturelle sur le plan urbain ou bien sur le plan national. Mais également, il y a aussi ce problème d'urbanisation qui se pose avec acuité. Vous savez qu'il y avait un niveau de recul assez élargi qu'on ne pouvait pas atteindre ou construire le long des rivières ou le long des canaux. Il y avait aussi ce problème des évacuations des égouts, les évacuations des eaux pluviales. Comment est-ce qu'on peut les irriguer, les diriger, qui vont aller où? Et ces espaces-là devaient être revus pour avoir de grandes capacités d'évacuation. Voilà un peu ça.
Mais la question d'urbanisation de la ville, est-ce que c'est là n'est pas une conditionnalité quand il y a une bonne politique d'urbanisation pour une meilleure sécurité civile et faire éviter à la population, par exemple, des cas des inondations ou des autres catastrophes naturelles?
Monsieur le journaliste, le cas d'urbanisation ne suffit pas seulement. Mais il faut voir aussi l'outil ou bien les éléments ou bien les structures nécessaires qui peuvent aussi venir en aide en cas de catastrophe naturelle. Vous vous souvenez, vous pouvez aller en Italie, vous pouvez aller ailleurs. Il y a aussi ce problème parfois d'inondation, des catastrophes. Mais comment est-ce qu'on les gère? C'est la gestion des catastrophes qui est aussi un problème. Voyez-vous, on peut avoir des structures urbanistiques commodes et puis qui répondent aux normes. Quand un tel problème arrive, ne prévient parfois pas, ou bien ne dépend pas de ces structures d'urbanisation. Mm-hmm. Mais quand vous avez aussi des structures capables d'intervenir face aux catastrophes, telles que sous d'autres, si on parle de CICR ou bien de Croix Rouge, mais sur le plan international, mais vous pouvez avoir aussi sur le plan local, au niveau de la ville. Par exemple, on a les circuits d'incendie.
Alors, quel est le regard que vous avez par rapport aux activités aujourd'hui de la Croix-Rouge face à ce genre de situations au niveau de la gestion au fait des catastrophes dans les volets prévention et aussi dans les volets intervention d'urgence?
Oui, bien sûr. Il y a aussi
le regard que vous avez.
Il y a aussi le ministère des Affaires sociales qui interviennent au niveau du secrétariat général des affaires humanitaires, qui viennent parfois dans les secours d'urgence. Vous voyez, ce sont des sujets comme ça qu'il faudra appuyer et leur donner des moyens. En cas de telle situation, ils répondent illico. Ce n'est pas qu'il ne faudra pas attendre qu'il y ait 2 semaines ou 3 semaines après. Voilà. Il y a aussi des éléments, par exemple des structures comme bâtiments. Vous savez, sur d'autres sites, vous avez des gymnases, vous avez des écoles qui peuvent accueillir ces gens-là qui sont en détresse en attendant qu'ils soient relocalisés ou bien remis dans leur habitation d'origine. Ce qui est difficile dans notre cas, ces habitations-là qui subissent ces catastrophes ont été construites en dehors des normes et ils occupent des zones qu'on appelle les non-édificandis qu'on ne peut pas construire. Voyez-vous? C'est un peu dans ce sens-là. Et si ce problème arrive, il faudra voir quelle structure qui peut intervenir au même moment. Il y a aussi parfois qu'ils interviennent, à quelle échelle? Comme je dis, il ne faudra pas attendre 2 ou 3 semaines après, pendant que ces gens sont en détresse, et ils vont rentrer où ces gens? Ils vont rentrer encore dans le même lieu où on les a interpellés.
Vous avez donc, voilà.
Vous êtes ici le long de rails. Vous voyez les Mososo, quartier Mososo par exemple à Kinshasa. C'est une zone où à chaque fois qu'il y a des fortes pluies, il y a des inondations. Mais les gens vont aller où?
Voilà. Merci beaucoup.
Ils vont revenir sur le même site.
Merci beaucoup à Apollinaire Salomon, vous êtes architecte, de votre contribution dans cette émission. Avec Général Valérie, vous nous avez rejoint à ce niveau du débat, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour, JR. D'abord, je présente mes condoléances à toutes les familles éprouvées. Bon, je pense que pour résoudre ces problèmes, il y a 2 méthodes. Nous devons parler de la prévention et de l'adaptation. D'abord, pourquoi il y a inondation? C'est parce que, il y a eu d'abord précipitation. Après la pluie, après qu'il y ait précipitation, les eaux ne se sont pas infiltrées totalement dans la terre, dans le sous-sol. C'est ainsi qu'une fraction importante est restée ruisselée, trouvant les rivières en faible capacité d'absorption et finalement il y a débordement. Là, nous devons bien comprendre que lorsqu'il y a précipitation, le pouvoir répartiteur, d'abord les eaux là, se répartissent en trois composantes. Il y a une composante qui s'infiltre, une composante qui ruisselle, et l'autre qui stagne, qui reste, sera évaporée. Quand bien même, il y a aussi d'autres évaporations qui se font au niveau des grandes surfaces. Et le plus grand évaporateur, c'est l'océan. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous devons prévenir. Prévenir, je vois d'abord, sur le plan managérial, l'État doit déjà se rendre compte que nous sommes à l'heure des changements climatiques, si bien que le taux de précipitation a déjà augmenté. Parce que dans les temps, on ne parlait pas de Bukavu, de Bas-Congo. On parlait plus de Katanga, de l'équateur, de Kinshasa. Mais lorsqu'aujourd'hui, nous parlons même de Bukavu, c'est-à-dire que les précipitations se sont générées à un taux tout à fait insupportable. L'État doit prévenir tout ça. L'État doit aussi prévenir, je l'avais dit une fois dans une autre émission, en organisant l'éturage des caniveaux. Ces services-là qui ont été abandonnés doivent être ressuscités. On ne doit pas compter sur les Salongo, parce que l'étendue est grande et le taux de chômage est élevé. S'il existe des budgets, le rôle principal des budgets, c'est d'absorber le chômage.
Allô?
Au niveau de l'adaptation, nous ne devons pas attendre les fonds verts pour commencer à nous adapter. Non. Nous devons savoir, par exemple, que lorsqu'il y a précipitation, le pouvoir répartiteur de ces eaux-là est régi par ce qu'on appelle l'index hydrogéologique. Donc, ce mécanisme fait intervenir, un, la qualité du sol. Est-ce que les sols sur lesquels les eaux sont tombées a trouvé que la lithologie là en bas, elle est perméable, oui ou non? Deux, la géosurface. Est-ce qu'il y a des pentes pour ruisseler ou non? En principe, il y a aussi la notion de la surface piézométrique. On doit savoir, est-ce que quand les eaux s'infiltrent dans les sous-sols, au niveau des aquifères, ou alors avant même d'y arriver, au niveau des nappes phréatiques, est-ce que ça va trouver, la nappe peut s'attirer à quel niveau? Tout cela, ce sont des paramètres qui varient d'un milieu à l'autre. Je prends l'exemple d'ici au Maniema. Vous avez au niveau du sol, l'argile est moins perméable. Mais quand vous forez, parce que je suis un maître foreur, j'ai été moitié foré un peu parti sur Maniema, lorsque vous forez, que vous arrivez plus loin, vous trouverez de l'argile perméable. C'est du fait que quand l'infiltration sera difficile, le ruissellement, les rivières vont absorber de grandes quantités, il n'y a que là où les formations hydrogéologiques sont perméables.
Voilà, alors donc si je comprends bien, j'ai l'air
d'aller. Les connexions avec les rivières,
oui. Et les autres sont perméables dans les sous-sols. Oui, j'ai l'air d'aller, je comprends bien toute cette théorie. C'est comme, si vous voulez, un système qu'en amont, on puisse associer également des ingénieurs que vous êtes dans la construction ou encore dans la politique d'urbanisation de villes ou encore des cités, afin de nous éviter ce genre de catastrophes.
Oui, en effet, oui.
Voilà, merci beaucoup, ingénieur Valérie, de votre contribution à cette émission. On va retrouver Maître Dominique Tambujimaï, Maître Dominique qui nous a rejoint également à ce niveau du débat. Merci à vous tous ceux qui participaient d'ailleurs en direct sur notre page Facebook et aussi également sur notre site. Sur la question, près de 50 personnes sont mortes et des milliers d'autres sont sans abri après des inondations provoquées par des pluies diluviennes qui se sont abattues fin décembre dernier dans la ville de Boma, dans la province du Congo central. La même situation s'est produite à Kinshasa et Bukavu, où d'ailleurs une avocate a été emportée par les eaux de pluie jusqu'au lac Kivu. Maître Dominique, vous êtes à Mbujimayi, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot.
Voilà, Maître Dominique, vous êtes avec nous. Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, merci de m'avoir aussi invité à ce débat ici. Et je tiens aussi à vous présenter d'abord mes voeux les meilleurs pour l'an 2017 et pour toute la République aussi. Dans l'entretemps, je profite pour présenter mes condoléances aux familles qui sont éprouvées. Néanmoins, je dois vous dire que à ce niveau ici, si nous cherchons d'abord à condamner les uns et les autres, ça sera grave. Le premier fait à comprendre est que nous sommes devant une catastrophe naturelle due, pas par les faits humain, mais par les effets naturels qui est arrivé. Comprenons qu'il y a les changements climatiques qui survient. Seulement, moi je sais que la nature humaine est bifide. Nous avons, monsieur, un problème réel. Le climat est en train de se détériorer, mais Dieu a doté à l'homme les capacités de s'adapter et de contourner tout ce qui arrive. C'est ce qui manque au Congo. Le Congolais ne sait pas s'adapter aux situations. Nous ne savons pas évoluer avec le temps. C'est ainsi que nous arrivons à voir au Congo qu'il y a des villes qui sont en train de pousser comme des champignons. Des villes poussent. Vous avez aujourd'hui Kasumbalesa qui est devenue une grande ville. Vous avez Tenkefunguru, mais des grandes agglomérations. Mais l'État vient marcher derrière juste pour chercher de l'argent et non pour organiser ces agglomérations-là. Demain, vous allez déplorer encore pour Kasumbalesa et les autres. Vous allez déplorer comme nous déplorons nous aussi même ici à Mbujimayi où il y a une vacuité sur plusieurs endroits dans la ville de Mbujimayi. Mais vous trouvez déjà que les chefs s'élèvent pour distribuer l'outil, ils donnent des parcelles à n'importe qui. Quand on va détruire ces parcelles-là, ils s'élèvent, il y a des députés qui se tiennent debout pour dire non, pourquoi on doit faire ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui entrent en jeu qui font que.
On venait de suivre tout à l'heure ingénieur Valérie et d'autres auditeurs qui l'ont même d'ailleurs précédé, qui ont donné leur point de vue, mais nous avons tiré comme leçon qu'il y a une confusion aujourd'hui dans la gestion des catastrophes naturelles. C'est vrai qu'il s'agit d'une question transversale, mais on ne sait pas qui devrait faire quoi à la place de qui. Donc c'est la question aujourd'hui, parce que les uns ont évoqué la responsabilité des ministères des Affaires sociales en aval, c'est-à-dire quand il y a déjà conséquences pour prendre en charge les victimes, payer les indemnités, mais en amont, ce qui devait être fait par les services d'environnement pour prévenir en fait les dégâts, c'est-à-dire la responsabilité citoyenne de ne pas jeter les déchets, les immondices dans la rivière et ne pas construire des maisons tout autour des rivières et parce que ça pouvait être une bombe à retardement afin de créer des situations de ce genre. Est-ce que vous partagez d'avis aujourd'hui qu'il va falloir réfléchir sur des attributions à donner à un ministère, notamment pour gérer ce genre de situation?
Effectivement, c'est pourquoi je dis, le Congolais, lui, ne sait pas s'adapter. L'homme, déjà, Dieu l'a créé avec une capacité de s'adapter aux situations. Il y a aujourd'hui ce que nous avons comme catastrophe climatique, changement climatique, mais Dieu a doté aussi à l'homme les capacités de s'adapter. C'est ce qui nous manque, M. Pierrot, je vous dis ceci. Nous avons des services, tous ces services-là existent. Vous avez des présidents, quand cette situation arrive, qui va faire des dons. Au lieu de réfléchir, comme l'a dit notre invité d'aujourd'hui, il a dit, nous avons besoin des solutions structurelles et non conjoncturelles. En 2009, il y a eu éboulement en Mbujimayi, il y a eu éboulement. Mais il n'y a pas, nous parlons là, il n'y a pas un autre service qui puisse s'occuper, qui puisse même analyser. On ne va pas suivre les travaux de l'ISP, les travaux qui ont été faits par les éminents professeurs de l'ISP, les sorts de Mbujimayi. Personne ne va suivre, tout le monde est distrait. Demain, on dira, non, il y a la responsabilité citoyenne.
Merci beaucoup, Maître Dominique, d'avoir évoqué la situation de 2009 à Mbujimayi. Il y a également des situations, du genre de cas de séisme, donc qu'on a enregistré au niveau de Goma et de Bukavu en 2015, si ma mémoire est très bonne. Il y a eu vraiment une forte intervention d'urgence pour aider les familles sinistrées. Voilà, on va terminer avec le dernier auditeur avant de revenir à vous, Monsieur Moïse, pour conclure cette émission. Franck, vous êtes à Vienne, bonjour et bienvenue dans cette émission.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, à vous tous, au studio, à tous les amis de Théa Nerveux et nos sincères condoléances et compassion à toutes les familles éprouvées. Merci, je suis en train de suivre l'émission depuis le début. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Je crois que ce que je voulais dire a déjà été dit par Amos, son mère, Madame Joséphine, le prof Ignace et aussi les JP. Nous sommes là en face d'un problème transversal, comme vous venez de le dire. Il nous faut de l'implication réciproque du côté citoyen, du côté de l'État. Mais quelque part, nous ne devons pas oublier que une des grandes responsabilités revient à l'État qui a des attributions régaliennes pour assurer la sécurité, la circulation des citoyens et aussi la protection. C'est vrai qu'une catastrophe naturelle ne s'annonce pas, mais on peut la prévenir. Mais on peut la prévenir que s'il y a une vision claire de la gestion de l'État. Monsieur le journaliste, mais quand on évoque par exemple le lotissement à des ordres de terrain, qui lotisse ces terrains? Ce sont les agents de l'État. Et qui achète ces terrains? C'est nous les citoyens congolais. Et quand on circule dans certaines villes, vous allez voir qu'il y a des terrassés qui sont restés sans réfléchir depuis les années de l'indépendance. Et on en a fait des poubelles. Et quand maintenant, les caniveaux sont constitués en poubelles, et où est-ce que l'eau va aller? Parce que l'eau a aussi une certaine force. Quand l'eau de pluie n'est pas canalisée, elle vous impose une chose différente. Mm-hmm. Je crois que nous devons nous interpeller parce qu'il y a vraiment absence totale d'une politique environnementale, d'une politique urbanistique, et toutes ces politiques-là, toutes ces notions de l'environnement, de l'urbanisme, ça doit être enseigné dès le bas âge dans nos familles. Donc on ne doit pas attendre 30 à 40 ans qu'on organise un séminaire de 2 heures, 3 heures pour qu'on acquiert toutes ces réflexions-là. Donc il y a un problème devant nous et nous devons nous interpeller. Comme Omer l'a dit, le vrai problème qui devait nous préoccuper, ce ne sont pas seulement les questions de partage politique, mais d'abord le social, parce qu'on vit d'abord dans ce pays comme citoyen et non d'abord comme ministre, comme ceci.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé les Vianes et surtout merci de votre contribution dans cette émission. On termine avec vous, M. Moïse Kabongo-Ngalula, directeur des gestions des catastrophes de la Croix-Rouge de la RDC. Monsieur Moïse, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Pour éviter les catastrophes qui sont, il faut se prévenir. Il faut se prévenir en mettant en place des structures qui vont aider la population à se prendre en charge lorsqu'il y a catastrophe. Les gens qui peuvent intervenir lorsqu'il y a catastrophe, les premières personnes, c'est les gens là où la catastrophe se passe. Si ces gens sont conscientisés, ils connaissent qu'est-ce qu'ils doivent faire à ce moment-là, ils doivent prendre des dispositions pour que lorsqu'il y aura la catastrophe, qu'il n'y ait pas trop de dégâts. C'est dans ce sens-là que la Croix-Rouge travaille avec tous les partenaires pour permettre de mettre en place ce que nous appelons les plans de secours communautaires. En mettant en place les plans de secours communautaires, ces plans-là informent la population des catastrophes avec lesquelles ils vivent. Ils sont formés comment mettre ce système d'alerte quand la catastrophe arrive, que la population soit déjà informée et la population alerte les autres communautés que la catastrophe arrive. Et ils sont formés quand la catastrophe arrive, comment donner maintenant la réponse en commençant par eux-mêmes. À ce moment-là, nous allons réduire les faits des catastrophes. Si tout cela est mis en place dans toutes les communautés, là où il y a des catastrophes, nous allons réduire l'effet des catastrophes. Mais si nous ne mettons pas en place ces stratégies, nous allons toujours commencer à déplorer lorsqu'il y a catastrophe. On ne peut pas éviter la catastrophe, mais on peut mener les activités avant la catastrophe pour réduire les impacts des catastrophes lorsque ça va arriver. Je pense que c'est à ce terme que je vais terminer.
Voilà, merci beaucoup, M. Moïse Kabongo-Ngalula. Nous rappelons que vous êtes directeur des gestions des catastrophes de la Croix-Rouge de la RDC. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On remercie toute l'équipe de production qui a concouru à la réalisation de ces programmes. Sylvain Matundou, Pierre Lamégi, Julie Fézabongonda, Martin Sebouzali et Gilles Lugembo qui vous a tenu compagnie. On se retrouve demain dans un autre numéro.